Université Paris 1, Panthéon Sorbonne.
De fraude fiscale et cybercriminalité, en essayant d'envisager cette approche essentiellement sous l'angle de la législation et non pas des organes, mais plus par rapport à la loi. Je suis très content d'intervenir et c'est la dernière intervention, donc rassurez-vous, ça ne sera plus très long. Alors, en ce qui concerne la fraude fiscale et la cybercriminalité, il faut rappeler ce qui a été mentionné tout à l'heure sur le concept de cybercriminalité, le fait que Internet et les nouvelles technologies ont fait émerger un nouveau type de criminalité, donc qui est la cybercriminalité, que nous avons étudié précédemment. Et comme nous avons pu le voir précédemment, il existe en réalité deux grands types d'infractions en matière de cybercriminalité. Ce sont les infractions qui sont spécifiques aux technologies de l'information et de la communication, comme par exemple les interceptions de données ou les atteintes au système de traitement automatisé de données, ou encore les infractions qui sont favorisées par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Par exemple, incitation au terrorisme, extorsion en ligne, contrefaçon. D'une manière générale, la matière fiscale est concernée par ces deux types d'infractions. Le constat peut paraître sévère, mais il conclut à considérer que les dispositifs de lutte contre la cybercriminalité en matière fiscale présentent plus de faiblesses que de forces. Alors, avant de traiter des faiblesses, des nuances. Des nuances sur la sévérité du constat à venir, la fraude fiscale a toujours existé. Donc, on a une cyberfraude, mais la fraude fiscale a toujours existé. La cyberfraude n'est qu'une forme moderne de la fraude fiscale. On a une administration qui est vulnérable, Bercy, qui a été attaquée récemment. Mais Bercy a été attaquée comme d'autres administrations ont été attaquées. Des administrations publiques, des administrations internationales, qui sont parmi les plus réputées, le FMI, l'administration publique aux États-Unis, la CIA, qui a été attaquée, mais également des entreprises comme Sony, la banque américaine Citigroup ou RSA Security, qui a des impacts assez significatif. Alors, il y a également des points forts pour l'administration fiscale, parce que c'est, à mon sens, c'est l'administration fiscale française, c'est l'une des plus réactives, c'est l'une des plus modernes au monde. Cependant, la question qui se pose, c'est de savoir qui est plus rapide dans la modernité, est-ce que c'est l'administration fiscale ou est-ce que c'est le cyberfraudeur ? Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit le cyberfraudeur qui soit plus rapide que l'administration fiscale. Par ailleurs, on a au sein de l'administration fiscale, et c'est aussi un élément positif, une cellule qui est spécialement spécialisée sur ces problématiques, dont nous avons des représentants dans la salle. Alors, en revanche, les faiblesses sont beaucoup plus nombreuses. Cependant, pour terminer sur une note positive, on verra que des pistes d'amélioration sont envisageables. En premier lieu, convient de dire que la lutte contre la cybercriminalité qui vise les administrations fiscales fait apparaître la nécessité d'améliorer le dispositif. Alors, les faiblesses du dispositif de lutte contre la cybercriminalité en matière fiscale s'expliquent pour deux raisons. La première raison, c'est que, à mon sens, il existe une frontière qui est plutôt délicate sur la notion de cyberfraude. Et par ailleurs, il y a un dispositif qui est insuffisamment protecteur contre la cyberfraude en matière fiscale. Alors, en ce qui concerne, en premier lieu, cette notion de cyberfraude et le fait qu'il s'agisse d'une frontière qui est relativement délicate. La notion de cyberfraude fiscale est complexe. Elle ne se résume pas à la simple fraude fiscale, qui ne prend pas suffisamment en considération l'impact des nouvelles technologies. Et au final, on peut peut-être considérer qu'il existe deux catégories de cyberfraude fiscale. La première catégorie, ça renvoie aux cas de fraude qui sont les plus difficiles à déceler, c'est-à-dire la fraude fiscale qui va être liée à un montage financier. Et la deuxième catégorie de fraudes sont des fraudes qui sont plus avérées, plus faciles, en tout cas à constater une fois qu'on a réussi à les localiser, c'est la fraude qui est liée à une dimension matérielle. Alors, première hypothèse, donc, ce sont les cas de fraude qui sont les plus difficiles à déceler. Autrement dit, c'est la fraude qui est liée à un montage financier. C'est l'hypothèse de fraude fiscale qui correspond au schéma classique, sauf qu'on va utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le montage financier. Alors, tout le problème, c'est de faire une distinction claire entre la fraude fiscale, l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale. La fraude fiscale, qui est définie à l'article 1741 du Code général des impôts, et qui est définie notamment sur le fait de vouloir se soustraire frauduleusement ou de tenter frauduleusement de se soustraire à l'établissement du paiement total ou partiel de l'impôt, autrement dit frauder pour payer moins d'impôts. Donc sont concernés l'ensemble des pratiques illégales qui visent à dissimuler des sommes imposables afin de ne pas payer les impositions qui sont dues. Et là, donc, on est véritablement dans le cadre de sanctions pénales qui sont envisageables. À l'opposé, on peut avoir l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est une utilisation habile des lois ou des conventions fiscales en vue de supprimer ou de réduire la charge fiscale. Et là, dans ce cas, il y a une absence de sanctions, sauf en cas d'abus de droit, on verra rapidement tout à l'heure. Et enfin, je pose la question de l'évasion fiscale. Alors, l'évasion fiscale, c'est l'ensemble des comportements d'un contribuable qui sont destinés à réduire le montant des prélèvements qui sont normalement dus. Alors, dans ce cas de possibilité, si le contribuable recourt à des moyens légaux, il va être considéré plutôt comme faisant de l'optimisation fiscale. Au contraire, si le contribuable recourt à des techniques illégales ou dissimule la véritable portée de ses opérations, l'évasion pourra plutôt être analysée comme un montage frauduleux. Donc, tout dépendra de la manière dont le contribuable va utiliser les nouvelles technologies. Alors, face à cette frontière délicate, ça pourra peut-être en faire surprendre certains, mais je me pose la question de savoir si finalement le cyberespace n'est pas devenu un paradis fiscal, une sorte de paradis fiscal pour ceux qui savent bien utiliser les failles des différentes législations nationales. Donc, comme il est relativement difficile de définir la fraude fiscale, et que parfois on ne sait pas véritablement établir l'optimisation fiscale, la distinction entre l'optimisation fiscale et fraude fiscale, parfois il n'y a pas de difficulté, mais parfois il y a des réelles difficultés. Alors, dans ces conditions, la fraude fiscale peut s'en trouver facilitée, d'où cette question. Alors, quelle est l'hypothèse? Par exemple, si ce sont les entreprises qui profitent des failles des législations fiscales qui ne prennent pas suffisamment en considération l'économie numérique. L'objectif de minorer l'imposition, donc limite entre la fraude fiscale et l'optimisation, pour échapper à l'impôt. D'où cette question que je vous ai dit, est-ce qu'on n'est pas devenu, avec le cyberespace, à un paradis fiscal? Paradis fiscal parce que grâce aux nouvelles technologies, on a quand même plus de facilité pour domicilier les comptes à l'étranger, mais comme je vous l'ai dit, ça existait avant, sauf que c'est rendu beaucoup plus facile. Par ailleurs, on a l'hypothèse des déclarants, des personnes qui exercent une activité, mais qui, sur Internet et grâce à Internet, mais qui ne déclarent pas cette activité parce qu'ils pensent échapper au regard de l'administration fiscale en toute impunité, à tort. Mais ils pensent comme ça pouvoir échapper aux contrôles fiscaux. C'est vrai que du fait qu'on ait du mal à appréhender la matière fiscale, certains contrôles sont rendus beaucoup plus difficiles. C'est toute la question de la territorialisation de l'impôt. Alors, on a quand même développé certaines techniques, parce que les personnes qui exerçaient des activités grâce à Internet et qui ne déclaraient pas n'étaient pas tous des cyberfraudeurs. Beaucoup ne le faisaient pas parce qu'ils ne pensaient pas déjà qu'il fallait remplir l'ensemble de leurs déclarations. C'était un revenu accessoire, donc ils n'avaient pas besoin de déclarer pour eux ces éléments. Et puis, il y avait beaucoup de démarches administratives à faire qui pouvaient poser une réelle difficulté. Donc, d'où la création du statut d'auto-entrepreneur en France qui facilite quand même pour ces auto-entrepreneurs les obligations fiscales et donc qui doit permettre en tous les cas de limiter cette absence de déclaration pour une partie la population. Malgré tout, pour éviter les excès en matière d'optimisation fiscale, parce que ces excès peuvent exister, l'administration fiscale a quand même une possibilité, c'est celle d'évoquer l'abus de droit. Donc l'abus de droit qui est à l'article 64 du livre de procédure fiscale. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a très peu de temps. Alors, deuxième aspect de la fraude, c'est selon moi la fraude qui est beaucoup plus facile à déceler. C'est la fraude qui est liée à une dimension matérielle. Là derrière, il n'y a pas de montage d'ingénierie fiscale qui va être réalisé, mais plutôt là une attaque contre un réseau informatique des administrations. Encore faut-il, vous me le direz, identifier la personne qui est attaquée. Mais une fois qu'on a pu déceler cette infraction, on sait qu'il y a eu attaque et donc on va pouvoir rechercher le coupable. Alors, deux objectifs dans ces attaques, soit c'est subtiliser les données qui sont sensibles, des données bancaires ou des autres données personnelles, soit c'est pour détourner des données sensibles. Alors, l'objectif, c'est de modifier directement les informations qui concernent un ou plusieurs contribuables, alors soit pour minorer son imposition, pour l'instant, ça paraît peut-être futuriste, mais ça n'est pas autant que ça, on le verra, soit à l'inverse, imaginons le cas de quelqu'un qui voudrait augmenter l'imposition d'un tiers, parce qu'il ne s'entendrait pas, par exemple, avec son voisin, ou il aurait un conflit avec quelqu'un, et donc il souhaiterait, lui, augmenter artificiellement ses revenus. Alors, autre dimension de la fraude qui est liée à une dimension matérielle, c'est non plus celle qui résulte d'une attaque, mais c'est celle qui résulte d'un logiciel comptable qui est inadapté. Aujourd'hui, la plupart des entreprises tiennent leur comptabilité à partir des logiciels informatiques. C'est l'ère numérique. Avant, on était dans l'ère pré-numérique où on avait des comptabilités qui étaient tenues sur papier. Donc, pour l'administration fiscale, c'était assez facile de vérifier si les comptes étaient tenus. Encore, si vous me direz qu'on peut toujours modifier du papier, mais l'utilisation des logiciels informatiques n'offre pas les mêmes garanties en termes de vérification, si bien que ça pose des problèmes en termes de contrôle des comptabilité des entreprises. Alors, toutefois, l'administration est consciente des lacunes qui sont générées par ces logiciels, notamment, par exemple, parce qu'elle publie des instructions fiscales, celle de 2006, qui est destinée à répondre à ces préoccupations, mais c'est une instruction qui est insuffisante. Et ça a été relevé par la Cour des comptes. La Cour des comptes a souligné qu'aujourd'hui, les logiciels ne permettent pas de garantir suffisamment le contrôle fiscal, puisque un certain nombre de lacunes ne sont pas décelables et 10% des redressements qui sont réalisés débouchent sur des pénalités qui sont exclusives de bonne foi, donc justement parce qu'on n'a pas été capable de déceler si le contrôle avait pu être fait dans la conformité par rapport à des comptabilités informatisées qui poseraient des difficultés. Alors, selon moi, c'est une situation qui, pour l'instant, est appelée à perdurer. Elle est appelée à perdurer, en tous les cas, tant que les éditeurs de logiciels refuseront de proposer des produits garantis contre la fraude fiscale et que l'administration fiscale ne disposera pas de moyens matériels et de ressources humaines suffisamment formées pour déceler ces nouvelles irrégularités, même si on a quelques cellules. C'est insuffisant, à mon sens, pour traquer toutes les difficultés qui pourraient y avoir. Alors, par ailleurs, autre faiblesse, selon moi, c'est que le dispositif est insuffisamment protecteur. Il est insuffisamment protecteur parce que la législation fiscale est inadaptée. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'article 1741 du Code général des impôts, qui prévoit quatre catégories de fraude fiscale, notamment l'omission volontaire de déclaration dans les délais, la dissimulation volontaire, l'organisation de l'insolvabilité et le recours à tout autre agissement frauduleux. C'est une sorte de catégorie fourre-tout qui permet d'anticiper des comportements frauduleux qui n'auraient pas été envisagés. Et donc cette formulation suffisamment large permet d'appréhender l'ensemble des formes de fraude non encore envisagées, comme donc la cyberfraude fiscale. Alors, en outre, il existe, notamment pour parler des logiciels informatisés en matière de comptabilité, le délit général de passation d'écriture fictive et d'entremise. On peut penser que ce délit peut s'appliquer en matière de passation de fausse écriture à partir d'un logiciel. Comme le professeur Lavenu l'a dit ce matin, il existe un certain nombre d'outils qui existent. Toute la question, c'est de savoir comment les adapter, comment adapter la technique par rapport à ces nouveaux délits. Alors, par ailleurs, la cyberfraude et ces manières d'appréhender la fraude fiscale, selon moi, par rapport à la cyberfraude, reste insuffisante et même si on peut avoir des liens qui existent, ce sont des liens qui sont trop indirects. Et l'ampleur des enjeux pose, selon moi, la question de savoir s'il ne faudrait pas actualiser la définition de la fraude fiscale pour envisager expressément le cas de la cyberfraude. Alors, d'autant que, je vous ai dit, la dernière catégorie qui permet d'avoir un sens suffisamment large ne permet pas d'appréhender la cyberattaque, les cyberattaques contre l'administration fiscale. Une cyberattaque, ce n'est tout de même pas une fraude fiscale au sens traditionnel et c'est tout de même pas une fraude telle qu'on pourrait l'envisager au sens de l'article 1743 du Code général des impôts. Donc, finalement, il n'existe pas de sanctions spécifiques pour les cas les plus importants, pas pour les cas classiques, mais pour les cas les plus importants dans le livre des procédures fiscales, si bien qu'il faut se référer au code pénal en matière de cybercriminalité, c'est-à-dire à l'usurpation d'identité en ligne ou aux atteintes au système de traitement des données. Alors, en ce qui concerne l'usurpation d'identité en ligne, je vous rappelle les peines qui sont prévues, 1 an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, à mon sens, ce sont des peines qui paraissent assez dérisoires au regard de ce que peut rapporter le hameçonnage au cyberfraudeur, quelqu'un qui se fait passer pour l'administration fiscale et qui va pouvoir récolter des milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros au nom de l'administration fiscale. Donc est-ce qu'un an d'emprisonnement plus 15 000 euros d'amende est suffisant? En plus, encore faut-il pouvoir l'appréhender sur le territoire national, qui est une autre question. Les atteintes au système de traitement automatisé de données, quelles sont les sanctions fiscales qui sont prévues? 2 ans d'emprisonnement à 30 000 euros d'amende quand on accède frauduleusement à toute une partie du site. 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende quand on accède au site et que ça a une conséquence sur le site internet. Est-ce que, par exemple, quand on supprime des données sur le serveur de l'administration fiscale, ça vaut 45 000 euros d'amende? La question, c'est de savoir s'il ne faudrait pas des amendes beaucoup plus significatives, beaucoup plus dissuasives. Alors, dans les cas les plus extrêmes, on peut avoir 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, avec des peines complémentaires qui sont prévues. Ce sont les peines complémentaires qui existent de façon traditionnelle, interdiction d'exercer certaines activités civiques, interdiction en ce qui concerne certains droits. Donc, en l'occurrence, rien d'assez important. Oui, j'ai noté la possibilité de saisir le matériel qui avait été à l'origine de la fraude, sauf si ça peut donner lieu à restitution. Alors, je n'ai pas très bien compris. J'imagine qu'un ordinateur, ça peut assez facilement donner lieu à restitution. Donc, en l'occurrence, là encore, c'est une sanction qui me paraît difficilement applicable à la matière fiscale. Donc, au final, des sanctions pénales qui paraissent dérisoires au regard des bénéfices pour le cyberfraudeur, mais surtout au regard des préjudices subis pour l'administration fiscale. Or, les préjudices subis par l'administration fiscale sont potentiellement doubles en cas de cyberattaque. Premier coût qui résulte de la cyberattaque, c'est un coût qui est analogue à ce qui peut exister en cas d'attaque du réseau d'une administration fiscale, analogue à ce qui peut exister en cas d'attaque d'une administration publique. Donc c'est un coût commun. Mais il y a un second coût qui peut ne pas exister dans le cas d'autres cyberattaques, c'est quand cette cyberattaque aurait conduit à supprimer ou à détourner une partie de l'information que l'administration fiscale possède sur le contribuable. je vous l'ai dit, soit pour minorer le revenu, soit pour rendre plus difficiles les contrôles fiscaux. Les contrôles fiscaux, imaginons l'hypothèse de quelqu'un qui attaquerait l'administration fiscale pour supprimer tous les justificatifs pour rendre beaucoup plus difficiles les contrôles. Alors, c'est vrai qu'on a une directive qui est en cours, qui est prévue pour renforcer les sanctions pénales en matière de cyberattaque, mais finalement, ce qui est prévu, c'est plus ou moins ce qui est prévu dans le code pénal français. D'ailleurs, c'est ce qu'a relevé le Sénat quand il a fait son rapport et qu'il a examiné la directive en décembre 2010. Alors, trois pistes d'amélioration assez rapidement peuvent être envisagées. La première, c'est de se demander si finalement, comment l'administration fiscale doit renforcer la sécurité de son réseau, quels sont les nouveaux procédés de stockage de justificatifs fiscaux, et enfin, comment adapter le droit fiscal à l'évolution de la société numérique. Alors, il va de soi que, en premier lieu sur la sécurité du réseau, il va de soi que la cyberfraude fiscale suppose pour l'administration fiscale, mais comme toutes les administrations, de sécuriser son réseau pour se prémunir contre une pénétration frauduleuse sur le réseau d'administration fiscale qui serait destiné à récupérer des données sensibles, à les effacer ou à les détourner. Ça implique également de sécuriser les télédéclarations fiscales. Autrement dit, veiller à la fiabilité des télétransmissions pour mettre en place les outils qui sont nécessaires pour lutter contre les interceptions de données. Alors, ce renforcement de la lutte contre la cybercriminalité suppose bien entendu de se doter des logiciels informatiques contre le piratage, mais également de mieux former les personnels aux risques qu'ils sont susceptibles de véhiculer. Je dois vous rappeler que la plupart des virus qui sont développés dans les entreprises ou dans les administrations sont importés eux-mêmes par les agents. Un certain nombre de précautions pour former les agents, pour leur dire qu'il faut faire attention dans l'ouverture d'email ou de clés USB, puisque c'est par ce moyen que la fraude fiscale, c'est par ce moyen que l'attaque va pouvoir se réaliser. Alors, également, l'administration fiscale doit se prémunir contre l'usurpation d'identité, donc éviter que des personnes malveillantes se fassent passer pour l'administration fiscale, d'où la nécessité pour l'administration fiscale de se doter d'un système d'identification infalsifiable. En tous les cas, c'est nécessaire de réfléchir sur les possibilités de faire en sorte que les contribuables utilisateurs des services en ligne n'aient pas de doute quant à l'auteur des messages. Il faut également, à mon sens, intensifier les campagnes de communication à destination des contribuables pour informer de ces pratiques et peut-être même, je dirais, pour leur faire peur. Faire savoir qu'il y a des cellules dans l'administration fiscale qui luttent contre la cyberfraude. Parce que le fait de l'annoncer, ça permet aussi de se dire, bon, bah, peut-être qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, il y a aussi un aspect dissuasif pour certains, pas pour tout le monde, mais en tout cas, la communication est importante. Alors, ce problème de pénétration frauduleuse est important, mais il pose des réels problèmes, mais en même temps, il pose des réels problèmes alors que le contribuable n'a pas aujourd'hui la possibilité de payer ses impôts directement en ligne, avec une carte bancaire, comme il peut le faire pour d'autres sites marchands. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer quand le contribuable pourra payer directement ses impôts. Et à mon sens, c'est une évolution qui est inévitable. Il faut que le contribuable ait la mesure de payer directement ses impôts en ligne grâce à une carte bancaire. Je ne vois pas pourquoi on peut le faire sur des sites marchands et pourquoi on ne peut pas le faire par le biais d'une carte bancaire pour payer ses impôts. Donc, qui suppose, bien entendu, de renforcer la sécurité du réseau pour se prémunir contre le piratage. Alors, également, il est nécessaire, deuxième piste de réflexion, d'aller vers des nouveaux procédés de stockage des justificatifs fiscaux. L'émergence d'une e-administration fiscale permet d'offrir de nouveaux services aux contribuables, et en particulier la télédéclaration fiscale. Et, à mon sens, on a un décalage entre l'émergence d'une e-administration fiscale et les formes traditionnelles de contrôle qui sont opérées par l'administration fiscale. Il y a un certain nombre de difficultés qui sont posées par la dématérialisation des systèmes d'information. C'est une avancée qui est positive, mais en même temps, désormais, le contribuable qui déclare par Internet n'a plus de justificatif à fournir. On lui demande de stocker son justificatif, et s'il est sollicité par l'administration fiscale pour avoir à justifier, il devra fournir. La fraude peut être tentante, en se disant, peut-être que je vais échapper. Ou en tous les cas, si la fraude n'est pas tentante, en tous les cas, ça peut être source d'un contentieux, parce qu'on peut avoir le contribuable qui a stocké son papier pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, et puis au bout d'une année, qui a complètement oublié où était son papier, et plus de justificatif. Donc, d'où la nécessité d'éviter de mettre en place un dispositif pour éviter cette source de contentieux. Alors, d'où la question de savoir si on ne peut pas aller vers de nouveaux procédés de stockage des justificatifs fiscaux. Un des moyens d'éviter ce contentieux est de favoriser les relations amiables entre l'administration fiscale et les contribuables, parce que c'est bien le sens de l'administration fiscale, c'est de développer les relations amiables, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est le but. Donc l'un des moyens, ça serait par exemple de développer le coffre-fort électronique au niveau de l'administration fiscale. Le contribuable pourrait y stocker tous ses justificatifs qui auraient été numérisés par lui, et l'administration fiscale pourrait consulter ses justificatifs en ligne. Des dispositifs de sécurité s'imposent néanmoins. Bien sûr, il faut s'assurer que du côté de l'administration fiscale, il n'est pas moyen de supprimer les justificatifs stockés. Vous avez parlé tout à l'heure du cas de la personne d'Air France qui avait modifié à l'intérieur du réseau. Alors, pour moi, c'est non pas par crainte que l'agent de l'administration fiscale suscite un redressement en supprimant l'archive électronique, si bien que l'administré n'aurait plus de preuves. C'est pas dans cette perspective, c'est plutôt pour se prémunir contre des attaques extérieures qui pourraient aboutir à détruire une partie de ces données. Et le contribuable qui aurait déposé le justificatif, normalement, n'aurait plus à fournir un nouveau justificatif, donc qui pourrait poser des difficultés. Et comme on l'a vu, les cyberattaques qui sont menées récemment montrent que ce n'est pas de la pure fiction. Si vous l'avez dit, ce n'est pas de la pure fiction. Il faut, en dernier lieu, ça sera donc ma dernière proposition, prévoir des sanctions pénales qui soient plus adaptées. Toutes les cyberattaques ne sont pas d'égale importance. Il y a des cyberattaques, il y a de la cyberfraude fiscale qui est réglée facilement par les dispositifs actuels qui existent. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand même, on a des cyberattaques qui sont beaucoup plus conséquentes et beaucoup plus dommageables. Et selon moi, c'est pas parce que je suis plutôt spécialisé en finance et en droit fiscal, mais la matière fiscale et les finances me paraissent comme présenter le plus d'enjeux, peut-être avec les attaques qui concernent le ministère de la Défense, parce que ça touche à l'argent de l'État. Si ça touche à l'argent de l'État, ça touche au bien-être et aux services qui sont rendus auprès de chacun. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, ces sanctions doivent être davantage dissuasives et proportionnelles à l'enjeu de l'infraction. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous l'ai dit, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros quand on a des millions d'euros qui sont potentiellement en jeu. Alors, en plus que 75 000 euros, c'est vraiment le cas limite, il faut vraiment avoir fait le maximum. Alors, adapter l'évolution de la droit fiscal à la société numérique suppose de mieux former les agents des impôts, de mieux former les étudiants. Nous avons la chance d'avoir des étudiants dans notre master droit du numérique administration entreprise qui sont des étudiants bien formés, je vous le rappelle. Avis aussi aux futurs employeurs. Vous pouvez trouver des bonnes ressources et qui sont spécialisés aussi, c'est pour les matières, aussi spécialisés en droit du numérique fiscal et en droit du numérique des finances publiques. Donc aussi avis pour les administrations fiscales qui souhaiteraient les employer. Ça suppose d'approfondir et de développer les réflexions sur le sujet, d'approfondir le lien entre fiscalité et économie numérique afin d'éviter qu'Internet ne devienne un paradis fiscal, d'étudier davantage les conséquences du passage de l'administration fiscale vers une e-administration fiscale, en particulier sur la sécurité des réseaux, de développer une réflexion sur les nouvelles relations qui s'instaurent entre l'e-administration fiscale et l'e-contribuable par la mise en place de moyens adéquats qui visent à renforcer le dialogue entre l'e-administration fiscale et l'e-contribuable par l'émergence de nouveaux procédés de stockage, comme on vient de le voir, ou par la possibilité de payer directement en ligne ses impôts par carte bancaire, ce qui suppose bien sûr d'avoir des éléments de sécurité. Alors voilà quelques pistes de réflexion que je voulais vous exposer, des pistes de réflexion que nous nous proposons de développer dans les cadres des travaux d'Imodev. Comme je vous l'ai indiqué ce matin dans l'allocution d'ouverture, nous souhaitons vraiment mettre en place un groupe de réflexion sur la cyberfraude, ou en tout cas sur les problèmes par rapport aux cyberattaques, cybercriminalité, et nous invitons toutes les personnes qui sont intéressées pour se rejoindre à nous. Et j'aimerais également avoir, c'était des personnes qui s'intéressaient, avoir des réflexions plus spécifiques sur justement cette évolution en matière fiscale, puisque là, il y a véritablement de véritables enjeux sur le passage d'une administration fiscale à une e-administration fiscale, et surtout le problème de l'ordre public, le cyberespace et l'ordre public international qui était évoqué ce matin par le professeur Lavenu. Je vous remercie pour votre attention, et avant d'oublier, n'oubliez pas demain, donc, reprise des travaux, 9h30.